la sœur Caridad. Et enfin, bonjour à Annie, que Dieu te bénisse. Alors, prions. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce matin et pour ta bénédiction, Seigneur, de pouvoir plonger nos regards dans ta parole. Nous savons, Seigneur, que ta parole nous interpelle, nous change et nous transforme. Alors nous prions, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée pour saisir ce que tu as pour nous aujourd'hui et pour faire en sorte, Seigneur, que cette parole trouve une terre bien malléable, bien travaillée, afin de s'enraciner, de croître comme tu le désires et de porter un fruit qui te sera agréable et profitable à l'avancement de ton royaume. Alors ce matin, j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère, et que ta grâce soit avec nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Je m'excuse, j'ai... c'est pas la grippe, c'est pas le coronavirus, ça s'appelle la cannelle qui est dans la gorge. J'ai mis un peu de cannelle sur le café, puis j'ai pas assez brassé au départ. Donc j'ai peut-être un peu de poudre de cannelle dans la gorge. Alors simplement vous dire comment on va procéder cette semaine. Ceux qui ont lu la publication d'hier de l'Église, vous savez qu'on va procéder un peu différemment. Je pense que l'expérience de la semaine dernière m'a inspiré. J'ai trouvé l'expérience intéressante de faire 4 enseignements. Donc, de lundi à jeudi, on va prendre notre temps régulier pour enseigner. Et puis, vendredi, on va passer toute la journée dans la prière. Et on va vous inviter aussi à jeûner. Donc, le vendredi matin, à la place de l'enseignement, ça va être un temps où on va reprendre les enseignements de la semaine et on va prier sur ces enseignements. On va prier en rapport avec ces enseignements. Et après ça, on va vous inviter tout simplement à rester dans le jeûne pendant toute la journée et de conclure avec un temps de prière, donc comme on a habituellement le vendredi soir à 19h. Donc, je vous réexplique la chose. Lundi à jeudi, à 8h30, bénédiction matinale, comme on a l'habitude de le faire depuis le tout début, avec un passage et un enseignement d'environ une demi-heure. Et puis le vendredi, en place et lieu de l'enseignement qu'on donnait habituellement, on va prendre le temps de prier. Et c'est d'autant plus important cette semaine, puisque la thématique qui est la nôtre, c'est ma maison de prière. Donc, quand Jésus dit « cette maison sera appelée ma maison de prière », donc, nous allons, oui, effectivement, prendre un peu plus de temps dans la prière vendredi. Mais ça va être une habitude qu'on va essayer de répéter à travers toutes les semaines, afin que le vendredi, une façon de bien conclure la semaine, puis aussi de nous préparer pour le week-end et pour l'assemblée du dimanche, on va prendre toute la journée de vendredi dans le jeûne et la prière. Pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas de caractéristique plus sainte ou plus chrétienne ou plus croyant ou plus spirituel de le faire ou de ne pas le faire. C'est une invitation. Je crois qu'il est bien d'avoir une hygiène spirituelle qui inclut du temps de jeûne et de prière régulièrement, voire de façon hebdomadaire. Donc, on vous invite, à ceux qui le veulent, de passer cette journée de vendredi dans le jeûne et dans la prière avec 2 rencontres le matin et le soir, qui sont consacrés à la prière. Alors cette semaine, comme je l'ai dit, on reprend la thématique de dimanche, avec même la maison de mon père sera appelée une maison de prière, et on va regarder chacun des passages qui mentionnent cette histoire-là, l'histoire de Jésus qui va dans le temple et qui vide le temple des marchands. On va regarder dans chacun des évangiles quelle est l'histoire qui est racontée, comment elle est racontée, et on va essayer d'y sortir certains points importants qui apparaissent dans un des récits et qui peut ne pas apparaître dans un autre récit. Et ce faisant, on aura peut-être une idée plus complète de cette histoire et on va en tirer un maximum d'enseignement. Donc aujourd'hui, on commence bien sûr avec le passage dans Matthieu. Demain, Marc, après-demain, Luc, et puis jeudi, dans le livre de Jean. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte est effectivement, on se retrouve plutôt effectivement dans les quatre évangiles. Alors pour vous ce matin, je vous invite à ouvrir dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21, et on va lire du verset 11 au verset 16. Matthieu 21, du verset 11 au verset 16. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc je lis pour vous Matthieu 11, Matthieu 21. Mon épouse va me dire, Florent, il faut que tu arrêtes de tousser dans ta main. Et elle dit que je ressemble au premier ministre Legault parce que j'apprends pas qu'il faut tousser dans le coude. Je m'excuse, bébé. J'y travaille. Voilà. Donc Matthieu 21, le verset 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et le verset clé pour nous, le verset 13 que je relis, « Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Alors, fait intéressant, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, les trois épisodes se passent à la fin du ministère de Jésus. Vendredi, jeudi, on va étudier le passage dans Jean qui, lui, se passe plutôt 3 ans plus tôt, au début du ministère de Jésus. Dans les deux cas, c'est une visite à Jérusalem. Et comme on l'a dit hier, il y a une progression entre la première visite dans Jean au chapitre 2 et dans cette deuxième visite que Jésus fait au temple. Bien sûr, il y a plus que deux visites, mais deuxième visite dans lesquelles il chasse les vendeurs du temple. Et là, il y a des mots qui ressortent ici qui ne ressortent pas nécessairement dans les autres passages et certains points que j'aimerais peut-être aussi faire sortir. Au verset 13, on commence, « Il leur dit, il est écrit. » Il leur dit, il est écrit. On parle bien entendu de la maison de Dieu. On parle du rassemblement des frères. Et de surcroît à cela, on parle aussi du temple que nous, de façon individuelle, nous sommes. On l'a expliqué hier lors de la prédication. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'étaient pas en ligne, vous pouvez toujours regarder l'enseignement en différé tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle donc du temple, on parle non seulement du rassemblement de tous les croyants, d'une part, qui est effectivement le temple, la maison de Dieu, qui est le corps de Christ, mais de surcroît à ça, on ne doit pas oublier que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de façon très individuelle et respective. Donc les règles qui s'appliquent quant à la préparation, quant au maintien, quant à la protection qu'on accorde à la maison de Dieu comme ensemble des croyants, ben cette même préoccupation doit aussi s'orienter vers la vie spirituelle très personnelle, la vie de prière très personnelle et individuelle. Et là, c'est « Il leur dit, il est écrit ». Une chose très importante. Dans la maison de Dieu, tout comme dans notre vie personnelle, tout doit être ramené à la parole de Dieu. Et tout doit être confronté dans nos vies à la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait être la base de notre fonctionnement tant collectif qu'individuel. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'on trouve les prescriptions du Seigneur pour comment mener une vie qui lui est agréable. C'est dans la parole de Dieu qu'on apprend à connaître davantage notre Seigneur. C'est à travers l'étude et la lecture de la parole de Dieu que le péché nous est révélé. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on n'apprendra pas à connaître ce qui plaît à Dieu de ce qui lui déplaît. Donc dans notre vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes devrait être confronté avec la vérité de la parole de Dieu. Et parfois cette confrontation va nous dire « Florent, ce que tu fais est mauvais ». Parfois cette confrontation avec la Bible va me dire « Florent, les orientations que tu donnes à ta vie ou les pratiques que tu as dans ta vie ne glorifient pas Dieu et Dieu n'appuie pas ça, voire même Dieu est contre ça ». En contrepartie, parfois, la lecture de la parole de Dieu va me donner l'assurance que ce que je suis en train de faire est effectivement agréable et approuvable de la part du Seigneur. Donc, dans notre culte commun, dans l'orientation du corps de Christ, mais aussi dans mon culte personnel et dans l'orientation de ma vie bien personnelle, je devrais avoir comme standard la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va leur dire « Il est écrit » parce qu'il les ramène. Il ramène son auditoire, il va confronter son auditoire avec la parole de Dieu. Il se donne des cours de croissance personnelle un peu partout. C'est la grande mode en Occident. Pour être un meilleur moi-même, on va vous donner des conseils à droite, des conseils à gauche, on va vous dire de penser à telle chose, d'oublier telle autre chose, on va vous dire de vous préoccuper essentiellement de 4 ou 5 points, puis d'éviter les personnes qui vous seraient toxiques, patati patata. À la base, ce qui fait de moi un bon homme, un bon homme, ce qui fait de mon frère et de ma sœur de bons hommes et de bonnes femmes, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est lorsque je plonge mon regard dans cette parole que j'en tire les instructions et l'enseignement dont j'ai besoin. Donc pour nous, en tant qu'Église, mais pour nous aussi en tant qu'individu, membre du corps de Christ, je dois être confronté avec la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il est important dans nos échanges, dans nos conversations, dans nos rassemblements officiels et officieux, qu'on puisse toujours avoir un temps où on revient à la parole de Dieu. Mes positions, est-ce que je les base sur un feeling? Est-ce que je les base sur une logique purement humaine? Ou je les base sur la parole de Dieu? Je vous donnerai juste un exemple que j'ai souvent eu l'occasion de partager avec vous. La mode actuelle, ça sera de dire « Prends soin de toi, parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne seras pas capable de prendre soin des autres. » Mais dans la parole de Dieu, on se rend compte que c'est pas un principe biblique. Jésus, à la base, qui est l'exemple parfait que nous devons suivre, à la base, Jésus va se sacrifier au profit des autres. Donc, si Jésus avait appliqué la philosophie contemporaine de « pense à toi avant de penser aux autres », pense à toi, puis tu pourras penser aux autres, Jésus aurait sauvé sa vie. Et ce faisant, nous n'aurions pas eu la vie éternelle à laquelle nous aspirons. Donc voilà un endroit où la parole de Dieu vient confronter une sagesse humaine qui ne cadre pas avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de penser à Dieu en premier, puis à notre prochain, d'aimer même notre prochain comme nous-mêmes, comme il nous est si facile de nous aimer qu'on puisse aimer notre prochain. Donc de faire passer Dieu en premier, puis notre prochain, et après ça, nous venons dans la liste. Et la liste des prochains, on s'entend qu'elle peut être très très longue. Elle était tellement longue pour Jésus qu'il a donné sa vie entière et complète pour toi et pour moi. Donc revenir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Deuxième chose, il va dire, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le terme kaleo qu'on a déjà vu à quelques reprises. K-A-L-E accent aigu O. K-A-L-E accent aigu O. Et kaleo veut dire Nommer une chose, interpeller une chose, donner un nom à une chose. Et cette histoire d'appeler la maison une maison de prière, c'est, on parle ici de la réputation de cette maison. Cette maison a la réputation d'être une maison de prière. Soyons honnêtes, très souvent, nos églises ont une multitude d'activités, ont une multitude de programmes, tous plus intéressants que les uns que les autres, tous plus bénissants les uns que les autres. Mais à un moment donné, on pourrait faire l'erreur de tomber dans une église ou dans un mode d'église, dans un mode d'opération où tout vient prendre la place à une soirée de prière. Tout vient prendre la place à une communion intime avec le Seigneur au niveau de la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc c'est la réputation, la renommée de la maison de Dieu qui est une maison de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on allait se mettre à parler de l'Église, ce qui allait ressortir du discours des uns et des autres, c'était un endroit où on parle à Dieu et où Dieu nous parle. Donc c'est important pour nous aussi de maintenir cette vie de prière active dans notre congrégation, de même que dans notre temple personnel que nous sommes, temple du Saint-Esprit, je la rappelle encore. La prière doit être une des bases. En fait, ici, on voit les deux grandes bases de la vie chrétienne. Il est écrit, donc un retour à la parole de Dieu, « Ma maison sera une maison de prière », donc un retour à, une vie de prière, avec des temps structurés de prière, prendre du temps à part où je prie. Et c'est ça qui doit marquer l'image de l'Église, de ce fait que nous avons contact avec Dieu, nous avons accès à Dieu et nous profitons pleinement de cet accès à Dieu. Dans la plupart des fois du passé, tout comme dans toutes celles, dans plusieurs qu'on retrouve encore aujourd'hui, il y a comme des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Il y a comme des gens qui sont une élite particulière qui permettent au restant du peuple, au restant du bas peuple, de venir en contact avec Dieu. Mais le bas peuple ne peut pas s'adresser à Dieu tout seul. Ici, c'est autre chose. Au niveau du Dieu de la Bible, au niveau du Dieu le seul, vrai, unique, véridique et véritable, comme on l'a vu jeudi dernier, lorsqu'on parle du Dieu de la parole de Dieu, du Dieu de la Bible, on parle d'un Dieu que nous avons, auquel nous avons accès en tant que croyants. Et là, on ne sait plus dépendamment quel est le rôle, quel est le mandat, quel est le titre que je peux porter dans le corps de Christ, mais c'est un accès à tous. Hébreux au chapitre 10 va nous dire que le voile a été déchiré et que ça nous a donné accès au lieu très saint. Ça veut dire que toi et moi, qui sommes maintenant une race de souverains sacrificateurs, qui sommes maintenant une race de lévites, nous avons tous, autant que nous sommes, accès à la toute présence de Dieu, à la toute précieuse présence de Dieu, à la toute merveilleuse présence de Dieu. Donc, il est écrit, retour à la Bible, « Ma maison sera appelée une maison de prière », retour à la prière. Mais de surcroît à ça, ma maison sera appelée. On parle d'une réputation, on parle d'une renommée. Et là, Jésus est en train de dire, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites autre chose. Donc Jésus s'élève contre ceux qui sont en train de distorsionner, ceux qui sont en train de changer la réputation de la maison de Dieu. Alors qu'elle devait être une maison de prière, voilà qu'on la transforme, qu'on en transforme la réputation vers quelque chose qui s'apparente davantage à une caverne de voleurs. Donc il est important de savoir qu'est-ce que je dis à propos de l'Église. Quel est le discours que je tiens par rapport au corps de Christ. Il y a des gens qu'on entend parler du corps de Christ qui sont eux-mêmes chrétiens, mais tout ce qu'on entend parler, ou tout ce qu'on entend sortir de leur bouche concernant l'Église, c'est tous les côtés difficiles, mauvais, désagréables, les facteurs humains du corps de Christ. Donc, vous allez avoir le discours habituel, c'est une bande d'hypocrites, il manque d'amour, ils se critiquent les uns les autres, ils s'entre-déchirent les uns les autres, ils disent une chose, ils en font une autre. Donc, c'est ce genre de discours qu'on va entendre de la bouche de plusieurs chrétiens. Est-ce que c'est édifiant? Non. Est-ce que c'est faux? Probablement pas. Assurément, chacun d'entre nous, on a à améliorer notre caractère et notre façon de vivre au sein du corps de Christ. Mais faisons quand même attention à la réputation que nous donnons à l'Église. N'oublions pas une chose. Cette Église, dans son appel, dans sa vocation, dans son essence, elle est parfaite. Nous sommes des briques qui sont en train d'être façonnées pour être édifiées comme l'édifice que Christ veut. Nous sommes en train d'être peaufinés pour être l'épouse parfaite que Christ vient chercher. Mais dans son appel, Christ l'aime profondément déjà. Pensez un peu à l'époque où vous avez commencé à fréquenter soit votre fiancé eux ou votre fiancé sans eux. Pensez un peu à cette époque-là. Quand quelqu'un venait, j'espère que c'est encore la même chose aujourd'hui, là, même après 50 ans de mariage comme c'est le cas de mes parents, là, mais quand quelqu'un venait parler en mal de votre monsieur parfait ou de votre mademoiselle parfaite, ça venait vous offusquer. Alors pensez Jésus. Jésus qui est mort pour l'Église. Jésus qui est mort pour le salut de celle qui est appelée sa fiancée, son épouse. Pensez-vous qu'il est agréable à ses oreilles d'entendre ce que nous disons, nous, concernant l'Église? C'est déjà un désaveu quand les gens du monde parlent mal de l'Église. Mais imaginez quand le discours sort même de ma bouche, de ta bouche en tant qu'enfant de Dieu. Alors faisons attention à la réputation que nous donnons à l'Église. Faisons attention aux mots que nous portons sur l'Église et voire même contre l'Église. Parce que ce faisant, nous parlons contre ceux, les personnes, la famille, le corps pour lequel Christ est mort. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites. Vous, vous en faites. Et c'est le présent qui est utilisé. Donc Jésus est en train de dire, regardez, vous n'allez pas vous cacher derrière ce que d'autres ont fait. Vous n'allez pas vous cacher derrière ce que les autres générations ont fait. En fait, il dit, je vous pointe à vous. Vous, vous faites de cette maison une caverne de voleurs. La responsabilité est placée sur nous. Jésus ici place la responsabilité sur ses contemporains. L'avenir, le devenir de ton Église est aussi placé sur ta responsabilité. Il y a trop de gens qui se disent « Ah, mais c'est la faute du pasteur ou c'est la faute du collège pastoral. » Nous avons tous une part à jouer dans le bon fonctionnement, dans la bonne croissance, dans la bonne santé de notre Église. En partant, est-ce que je prie pour mon Église? Secondo, est-ce que je prie pour les personnes que Dieu a placées en autorité dans mon Église? Est-ce que je prie pour que la sagesse de Dieu leur soit donnée? Est-ce que je prie pour que la révélation de Dieu leur soit accordée? Si je ne prie pas pour mon Église, mais il ne faut pas que je m'attende non plus à ce que cette Église soit transformée. L'outil principal de transformation que nous avons entre les mains, à la base, c'est la prière. Actuellement, on voit plein de discours, les gens disent « Ah, il faut prier, il faut prier, il faut prier », mais de surcroît à ça, faut faire des actions. Faut surtout prier. Les gens disent, ouais, actuellement, faut prier pour ce qui se passe, mais en même temps, il faut poser des actions. Regardez, quand on aura assez prié, peut-être qu'on aura du temps pour faire autre chose, mais pour l'instant, la chose qui est importante, c'est de prier. Mais cette vérité-là, elle est importante pour aujourd'hui, pour avant, pour demain, pour dans 10 ans, si Dieu nous prête encore vie. Il est important d'avoir une vie de prière en faveur même de notre Église. Vous savez que ce qu'on passe actuellement avec le confinement et avec la pandémie de COVID-19, le fait que Montréal est passé de jaune à orange, possiblement aujourd'hui du orange au rouge, fait en sorte que l'Église est restreinte dans son action, l'Église est restreinte dans sa capacité à se rassembler, mais l'Église n'est pas restreinte dans sa capacité à approcher le Seigneur. L'Église n'est pas restreinte dans sa capacité à prier. L'Église n'est pas restreinte dans sa capacité à veiller les uns sur les autres déjà par la prière. Et la Bible nous dit que la prière du juste, donc la prière de ceux qui constituent l'Église, a une grande efficacité. Donc la prière est importante. J'ai une responsabilité sur ce qui se passe, sur ce que devient mon Église. J'ai une responsabilité, cette première responsabilité, je l'assume ou je la refuse par le fait que j'accepte de prier, par le fait que je prie ou par le fait que je refuse de prier et par le fait que je me dégage de cette responsabilité de prier envers mon Église. Il dit vous, donc c'est notre responsabilité. Dieu pourrait te pointer du doigt ce matin en te disant, mon fils, est-ce que tu pries pour ton Église? Jésus pourrait te pointer du doigt ce matin en disant, ma fille, est-ce que tu pries pour tes pasteurs? Jésus pourrait me pointer du doigt à moi aussi en disant, Florent, t'as beau prêcher, mais est-ce que tu pries pour les brebis dans la congrégation? Dieu pourrait me pointer du doigt et me dire, Florent, tu as beau enseigner puis faire tes bénédictions matinales à tous les matins, mais est-ce que tu prends du temps pour intercéder pour ceux qui constituent l'Église? Par la grâce de Dieu, je prie pour vous. Donc, si son doigt se pointait sur moi, je ne serais pas un homme qui a à rougir. Je prie pour vous. Mais cette responsabilité-là, elle est pour nous tous. Nous avons la responsabilité de ceux qui arrivent dans l'Église. Mais de surcroît à ça, si on dit, vous en faites une maison ou un repère ou une caverne de voleurs. Ça veut donc dire que j'ai la capacité d'influencer ce qui se fait dans l'Église. Ça veut dire que j'ai une incidence ou j'ai une part de responsabilité ou une incidence ou une part à jouer dans le devenir de l'Église. Alors de surcroît la prière, es-tu actif dans l'Église? Est-ce que tu pratiques effectivement la communion fraternelle ou simplement tu viens dimanche matin? Tu viens faire ton rituel très religieux de venir à l'église, taper des mains un peu, chanter, écouter le pasteur pendant 45 minutes, une heure, puis après ça, tu es reparti pour la semaine. C'est plus que ça, l'église. L'église, c'est une communauté. L'église, c'est une vie de famille. L'église, c'est en fait, c'est une famille. Tous des enfants, des fils et des filles du roi. De surcroît à ça, l'église est un corps. Composé de différents membres, tu en es un, j'en suis un autre, mais ce corps-là interagit ensemble. Ce corps-là dépend les uns des autres. Donc, quelle est la part que je joue dans le devenir de ma maison de prière? Quelle est la part que je joue dans la croissance de cette église? Quelle est la part que je joue dans la croissance numérique, dans l'approfondissement de la parole de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur? Quelle est la part que je joue dans tout cela? Mais on pourrait reprendre tout ce qu'on a vu ce matin et le remettre sur un plan très personnel quant au temple du Saint-Esprit. Est-ce que je veille à avoir une vie personnelle de prière? Est-ce qu'effectivement, lorsqu'on parle de moi, la réputation que j'ai, c'est que je suis un homme qui va chercher la face de Dieu. Ou plutôt, je suis un homme qui essaie de se débrouiller par lui-même. Et puis, les gens savent que lorsque j'y arriverai pas, ben, à ce moment-là, je finirai par me tourner vers Dieu. À un moment donné, dans le parcours de maladie que j'ai eu, juste avant que je ne sois opéré au niveau de l'œsophage, mon médecin a voulu que je voie un spécialiste orthopédiste pour ma cheville. Vous savez, c'est là où on avait d'abord trouvé la tumeur initiale. Donc, on m'envoie voir un des plus grands spécialistes à Montréal sur le sujet. Et le monsieur, après 2 minutes, me dit, « Ben moi, si j'étais toi, je me ferais couper le pied, puis on amputerait le pied. » Et il dit, « Je pense que comme tu t'apprêtes à avoir une grosse opération, on pourrait faire ça la même journée, ça réglerait les deux problèmes, et puis ça serait tranquille après. » Et moi, je lui réponds, « Je ne vous donne pas une réponse, je dois aller prier. » Et il me regarde avec étonnement en me disant, « Mais tu vas aller prier, pourquoi ?» Et je lui dis, mais parce que je dois savoir ce que Dieu veut que je fasse avec mes pieds. Il était important pour moi d'aller prendre le temps pour prier. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer que moi, pendant 2-3 semaines, c'était le 19 décembre, et on devait donner une réponse le 11 janvier. Et pendant tout ce temps-là, j'avais pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et c'est à 4 heures du matin, le 11 janvier, que j'ouvre une toute nouvelle Bible. Donc, ça pouvait pas être simplement Florent, il ouvre tellement souvent à cette page-là que naturellement la Bible s'ouvre à cette page-là. Je suis tombé dans un passage dans Ésaïe qui disait, « Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui disent à Sion, ton Dieu règne encore. Les pieds sur les montagnes de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et le fait que c'était au pluriel, moi je savais que Dieu était en train de me parler directement à moi. Et quand je suis retourné voir le médecin, je lui ai dit, non, je ne me fais pas couper le pied, je ne me fais pas amputer. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que j'ai encore d'autres montagnes à gravir. Et j'étais convaincu que Dieu m'avait parlé. Donc j'étais retourné à la parole de Dieu d'une part, et j'avais permis à Dieu de me dire ce que je devais faire, et j'avais pris du temps dans la prière pour chercher la face de Dieu. Et après ça, comment on parle de l'Église, comment moi je parle de l'Église, comment toi personnellement tu parles de l'Église. Et finalement, savoir que l'état de l'Église, mais l'état aussi du temple du Saint-Esprit que toi, tu es individuellement et que moi je suis individuellement, ben ça dépend aussi de moi. Si je ne prie jamais, faut pas s'étonner qu'il se passe pas grand-chose dans ma vie spirituelle. Si je cherche pas à connaître Dieu, faut pas étonner que je sois constamment en période de chute dans le péché. Je ne peux m'améliorer que si je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la recherche de la face de Dieu et dans la connaissance du Seigneur. Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin. Demain, on va reprendre la même histoire. Mais dans le livre de Marc, je vous donne déjà la référence, c'est dans Marc au chapitre 11, du verset 15 au verset 19. Donc ça va être demain. Encore une fois, c'est ma maison de prière, la maison de mon Père, que vous transformez en repère de brigands ou en caverne de voleurs. Donc ça sera cette même histoire, mais on va faire ressortir quelques autres points qu'on voit dans le livre de Marc quant à cette histoire. Alors prions ce matin, simplement pour remettre la journée entre les mains du Seigneur, et je prie que vous soyez confrontés à la parole de Dieu, que vous vous confrontiez à la parole de Dieu. Je prie que vous ayez une bonne vie de prière, un temps de prière actif aujourd'hui, et que vous preniez votre responsabilité par rapport à ce qui se passe avec l'Église, déjà en partant au niveau de la prière. Alors merci Seigneur pour ce rappel, merci pour ces quelques mots et ces quelques instants qu'on a passés ensemble. Merci Seigneur de ce que ta parole est encore une lampe à nos pieds, une lampe qui nous éclaire dans le chemin que nous suivons, qui nous éclaire aussi dans les pièges, les traquenards qui sont devant nous, qui nous éclaire par rapport à ce que toi tu as pu versus ce que tu désapprouves, les choses que tu bénis, et des choses, Seigneur, que tu condamnes. Alors, Seigneur, merci de nous rendre accessible cette parole et merci de la liberté que nous avons pour y plonger nos regards. Je prie, Seigneur, que lorsque ma sœur et mon frère le feront aujourd'hui, que cette parole, Seigneur, puisse briller devant eux et qu'elles puissent éclairer effectivement leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils aient des temps d'intimité dans la prière avec toi, des temps bénis, des temps riches et des temps, Seigneur, profitables pour chacun d'entre eux. Et Seigneur, je prie que tu mettes un filtre à nos lèvres, que tu nous donnes, Seigneur, cette sagesse de réfléchir aux mots que nous prononçons concernant ton Église. Tu es mort pour ton Église. Tu as accompli le sacrifice ultime pour ton Église. Alors je prie, Seigneur, que nos paroles parlent avec grâce, avec affection, avec amour concernant ton Église. Parce que c'est souvent de notre bouche que jaillit la réputation ou que commence la réputation qu'on fait par rapport à ton Église. Alors je veux parler en bien de mon frère, je veux parler en bien de ma sœur. Je ne veux pas présumer du mal. Je ne veux pas présumer, Seigneur, des mauvaises tendances d'un frère ou d'une sœur. Je veux voir ta grâce dans leur vie. Je veux proclamer ta bénédiction dans leur vie. Et je veux proclamer, Seigneur, que ces frères et ces sœurs, étant greffés à moi dans ce corps qu'est l'Église, je veux proclamer qu'ils sont effectivement une bénédiction. Alors merci, Seigneur, pour le restant de cette journée. Bénis mon frère, bénis ma sœur et garde-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle, ce soir, il y a le cours biblique avec le pasteur André, cours sur l'Apocalypse. C'est à 19h, c'est accessible sur la page Facebook, de même que sur le réseau Zoom. On vous invite vraiment à contacter l'Église à travers l'adresse électronique secrétariat-EAJC en un seul mot. Pas d'accent, à commercial@gmail.com pour nous donner vos coordonnées dans un temps de confinement comme on est actuellement ou comme qui risque de s'intensifier à travers les prochaines heures. Donc, on veut rester en contact avec vous tous. On veut vous envoyer les dernières nouvelles lorsqu'il y a un changement précoce ou rapide qui se fait. Donc, on veut être capable de vous contacter. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous, donnez-nous votre adresse courriel la plus active. Donnez-nous aussi votre numéro de téléphone. Inscrivez le nom des différents membres de la famille si on a besoin de les contacter, tout ça. Tout simplement pour qu'on reste en contact sérieusement. Donc, ce soir, cours biblique avec le pasteur André. Et puis, nous, on se retrouve demain matin. Alors, simplement quelques mots pour saluer certaines personnes qui se sont joints à nous depuis tout à l'heure. Juste un instant. Vous êtes nombreux encore ce matin. Donc, Ramon, Dieu te bénisse. Maggie, Dieu vous bénisse. Raissa, Dieu te bénisse. Diane, je crois que je vous ai salué, mais encore une fois, Dieu vous bénisse. Diana, Dieu vous bénisse. Jean-Louis, Dieu te bénisse. Dommage qu'on n'ait pas pu se voir hier, mais sois béni, Jean-Louis. La sœur Teresa, Dieu vous bénisse. Jimmy, Dieu te bénisse. Mildred, bonjour, Dieu te bénisse. Evelyne, donc l'épouse du frère Ramon, qu'on a salué il y a quelques instants, bonjour, Dieu te bénisse. Vanessa, Dieu te bénisse, le bonjour à Jeff et aux enfants. Juan Alberto, Dieu vous bénisse. Tina, Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je défile, mais je pense que c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, on se retrouve ce soir avec le pasteur André, 19h, et puis demain à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, passez une bonne journée dans la présence, dans la prière et dans la parole de Dieu. Alors, à ce soir et à demain. Bye bye tout le monde.